Voilà, mais bienvenue à vous, amis du Centre Sèvres, auditeurs, étudiants, enseignants, membres du personnel. Et vous, peut-être, qui venez ici pour la première fois, bienvenue à cette troisième édition des forums du Centre Sèvres. C'est un temps fort au milieu de l'année universitaire et c'est l'occasion de nous retrouver un petit peu gratuitement, de réentendre finalement ce qui nous rassemble au Centre Sèvres et aussi de nous en remettre à Dieu. Nous aurons tout à l'heure un temps de prière pour cela. Et c'est aussi l'occasion de relier ce que nous faisons ici à d'autres lieux. Et ce soir, bien sûr, c'est l'Algérie. Nous avons en effet ce soir un invité, Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran, de cette ville où ont été béatifiés tout récemment 19 témoins de la foi et de la fraternité. Des témoins qui sont morts au cours de la décennie terrible en Algérie, où sont tombés entre 150 000 et 200 000 Algériens aussi. Et cette béatification, à partir des échos que nous avons eus ici, nous l'avons ressenti comme un événement très important. Quelque chose de très fort s'est passé, quelque chose sans doute qui ouvre de nouveaux possibles. C'est ce que nous avons ressenti à partir d'ici. Merci beaucoup donc à vous, Père Jean-Paul Vesco. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir et très touchés que vous vous soyez déplacé spécialement pour nous. Sans doute, nous avons beaucoup à recevoir d'une église comme celle d'Algérie. Une église très modeste en nombre, dans une société musulmane. Elle a certainement des choses à nous apprendre sur ce que signifie être témoin du Christ. Et ce sont ce soir des étudiants du Centre Sèvres qui vont vous interroger. Et Claire Rossignol, qui est là tout au bout, étudiante elle aussi, dans le cycle « Croire et comprendre », va animer ce temps d'échange. Les forums du Centre Sèvres, c'est aussi l'occasion de découvrir des aspects de cette maison, du Centre Sèvres, qui ne sont pas nécessairement familiers aux uns et aux autres. Vous avez pu voir en arrivant une série de points d'information avec des ballons qui indiquaient, qui déployaient un petit peu les propositions des 6 départements du Centre Sèvres et aussi du cycle Croire et comprendre. Et je vous signale 3 propositions auxquelles nous tenons beaucoup et qui ont lieu au second semestre, quelquefois que ça vous mette en appétit, on ne sait jamais. Il va y avoir un cycle de conférences, de 8 conférences sur le thème « Annoncer l'Évangile hier et aujourd'hui ». On sera en plein dans la continuité de la soirée de ce soir. Ça commence le 6 février, sous la direction de Michel Fédou. Et puis, nous aurons, à partir du 26 mars, une série aussi de 6 conférences sous la direction de Geneviève de Taines et de Jean-Paul Lamy, qui s'intitule « Relations pastorales et respect des personnes ». Et là, ça sera l'occasion de réfléchir et de parler à partir des problèmes d'abus, abus d'autorité, abus sexuels, dont il a été beaucoup question dans l'Église. Et ça sera l'occasion de nommer et de reconnaître ce qui est inacceptable pour pouvoir lutter contre. Mais ça sera aussi l'occasion de réfléchir sur ce qu'est une relation pastorale heureuse. Et de cela, nous avons aussi besoin, je crois. Et puis bientôt, il y aura une session sur la vie religieuse qui s'intitule cette année « Sens et non-sens des vœux religieux aujourd'hui ». Je ne sais pas si vous savez, mais le Centre Sèvres joue un rôle quand même assez important dans le service de la vie religieuse. Un grand nombre d'étudiants d'ici sont des religieux ou des religieuses. Et cette session, elle donnera l'occasion de réfléchir à nouveau sur le sens de ces vœux, très à contre-courant, mais qui sans doute, à cause de cela, ont quelque chose d'assez essentiel à dire dans la société d'aujourd'hui. Et puis, pour ce deuxième semestre, vous avez des cours qui commencent bientôt sur Emmanuel Lévinas, René Girard, Anna Arendt, sur Rousseau, sur Teilhard de Chardin, Bonhoeffer, Saint-Augustin. Vous avez une introduction au Nouveau Testament. Vous avez un cours sur le dialogue interreligieux, sur la théologie morale, sur la relation de soins, sur l'art de la variation dans la musique de Bach. et des dizaines d'autres propositions. Voilà. J'espère vous avoir mis quand même un tout petit peu l'eau à la bouche. N'hésitez pas à regarder sur les programmes du Centre Sèvres, toutes ces propositions. Je tiens à dire un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la préparation de cette soirée. Je pense aux étudiants, tout spécialement à vous, qui êtes maintenant sur le grill. Mais je pense aussi aux membres du personnel qui ont fourni un énorme travail pour préparer cette soirée et à toutes les personnes qui s'y sont données. Et puis, je tiens aussi ce soir à remercier tous nos donateurs qui donnent au Centre Sèvres via la Fondation de Montcheuil. Car vous le savez, sans eux, eh bien, il n'y aurait pas de Centre Sèvres. On peut dire, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors à tous, je vous souhaite une très bonne soirée. Et maintenant, je vais passer la parole à Hamilton, qui est étudiant au Centre Sèvres et séminariste du diocèse d'Oran, le diocèse de Mgr Vesco. C'est lui qui va nous présenter son évêque et son diocèse. Voilà.
Lourde tâche. Voilà, je vous présente Mgr Jean-Paul Vesco, ou soit Père Jean-Paul Vesco, ou Frère Jean-Paul Vesco, mais il préfère Frère Jean-Paul Vesco. Voilà, originaire de Lyon, où il a grandi et a fait ses études de droit. Il a exercé pendant 7 ans à Paris, au 223 rue du Faubourg Saint-Honoré. Alors, il est important de préciser, vous allez voir pourquoi. À 33 ans, il y a eu un grand retournement dans sa vie, d'avocat à frère dominicain. Une fois ordonné, très tôt, il s'est porté volontaire de rejoindre un autre frère dans le projet de réouvrir une communauté en Algérie, à Tlemcen, à quelques kilomètres du Maroc, quelques années après l'assassinat de Pierre Claverie, qui était lui-même dominicain, et qui va influencer le choix de frère Jean-Paul. Il arrive en Algérie en 2002, où il s'installe à Tlemcen, comme curé à Tlemcen. Puis, de 2005 à 2010, il est nommé vicaire général et en même temps, économe diocésain. En décembre 2010, il est nommé provincial des Dominicains de la province de France. Il quitte douloureusement l'Algérie, où il va s'installer encore une fois à Paris, et non au 223, mais au 222 rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais, 2 ans après, le 1er décembre 2012, il est nommé évêque d'Oran par Benoît XVI, et il est ordonné le 25 janvier 2013 à Oran. Il est auteur d'un livre sur la question du mariage et des divorcés remariés, qui s'intitule « Tout amour véritable est indissoluble ». Il a participé aussi au synode sur la famille, invité par le pape. Il a écrit encore un autre ouvrage sur l'amitié, qui parle de son quotidien en Algérie et le sens de la présence de l'Église. Le diocèse d'Oran, dont il est évêque, est composé de 6 paroisses éloignées les unes des autres. Donc des fois, il fait 300 kilomètres, par exemple, pour aller visiter telle paroisse. Une église composée majoritairement de fidèles de passage, des personnes en migration, quelques milliers, des étudiants subsahariens, quelques milliers aussi, des chrétiens du pays et quelques expatriés européens. Les paroisses et les différentes activités pastorales sont animées par les jeunes venant de partout. La diversité de langues, cultures, confessions chrétiennes fait sa beauté. Un exemple, 2 semaines à la manière de Thésée est organisée en Algérie par les jeunes pendant l'été. Aussi, il y a 2 semaines de rencontres jeunes chrétiens et musulmans. Une 15aine de prêtres et 40aine de missionnaires religieux font partie de ce diocèse. dont voilà, des dominicains, des capucins, des maristes, des sœurs de la doctrine chrétienne, des sœurs blanches, Notre-Dame des apôtres, spiritains, petites sœurs de Jésus, petites sœurs des pauvres, des focolari, des prêtres de la mission de France et d'autres fidei donum, et quelques volontaires DCC, entre autres, un diocèse, donc le diocèse d'Oran, un diocèse au service de la population algérienne, par des bibliothèques, 8 bibliothèques dans le diocèse, des activités, par exemple, pour les enfants, des centres aérés, des formations pour les femmes, un centre d'accueil et d'écoute de femmes en migration, et de nombreuses actions avec les associations oranaises. Vous avez en face de vous un homme exceptionnel, très simple et qui aime profondément l'Algérie. Et je laisse la parole à Claire. Merci.
Monseigneur Vesco, au nom des étudiants qui ont préparé cette soirée, laissez-moi vous dire notre joie de vous accueillir ici, dans ces fauteuils, un peu comme à la maison, et notre impatience d'entendre votre témoignage et d'échanger avec vous sur ce beau thème de témoins du Christ en terre d'islam. Témoins du Christ qu'ont été les 19 religieuses et religieux béatifiés le 8 décembre dernier dans votre diocèse à Oran. Témoins du Christ que vous êtes chaque jour en Algérie. Alors, un mot peut-être pour nous présenter. Trois femmes et trois hommes pour une parité parfaite. Paola est brésilienne et sœur de la communauté du Chemin Neuf. Monique est camerounaise et missionnaire croisée de l'Église. Et puis, trois jésuites de trois continents différents. Youssef est égyptien. Et Olivier, français, et Pradeep, indien. Donc nous sommes tous étudiants ici, dans différents cycles. Cycle intégré de théologie et de philosophie, premier cycle de théologie, deuxième cycle de théologie, ou cycle croire et comprendre. Alors nous avons reçu d'Étienne Grieux carte blanche pour vous poser toutes les questions que nous voulions. Donc vous êtes prévenus. Et donc nos questions d'abord, mais vos questions aussi, que vous soyez dans cette salle ou que vous nous suiviez depuis la salle Henri de Lubac. Un temps suffisant est prévu pour vos questions.
Alors, Monseigneur Vesco, nous avons eu la joie de vivre l'événement de béatification des 19 martyrs d'Algérie ici à Paris, à travers les médias. D'autres personnes aussi ont eu la possibilité de faire le pèlerinage jusqu'en Algérie pour pouvoir vivre cet événement. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, et même aussi pour nous autres qui aimerions réentendre votre témoignage, comment est-ce que cet événement a été, et quels ont été les moments forts de cet événement en Algérie? Et aussi comment la population algérienne, elle aussi, elle a accueilli et vécu cet événement. Et par ailleurs, les médias algériens disent qu'au-delà des chrétiens qui ont été martyrisés, ce sont des Algériens eux-mêmes, qu'ils soient artistes, qu'ils soient intellectuels ou tout simplement des Algériens anonymes, ce sont eux aussi qui ont subi des problèmes durant cette décennie qu'on peut dire noire en Algérie. Et du coup, ils ont partagé une communauté de martyrs. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que les Algériens entendent ce message comme quelque chose vécu en commun entre tous?
Voilà, merci Bonsoir à tous. Quel bonheur de se retrouver avant de répondre à la question. Vous vous remerciez d'être venu. Je reconnais beaucoup de visages amis. Si j'avais su que tout ce monde étudiait au Centre Sèvres, je crois que j'aurais demandé un semestre sabbatique pour me reposer, simplement pour bénéficier de toutes ces amitiés. Merci au Centre Sèvres de recevoir, d'accueillir Hamilton. Voilà, je peux témoigner, attester, continuer ce que vient de dire Étienne Grieux. Il fait bon étudier dans cette maison et c'est en grande confiance que je vois Hamilton avancer et se construire dans sa réflexion théologique et je sens ce climat qui est extrêmement extrêmement fraternel. Hier, j'ai rencontré l'ensemble du corps enseignant et j'ai été impressionné. Donc merci au Centre Sèvres de m'avoir accueilli aujourd'hui. Bon, Hamilton en a fait un peu trop, mais il n'a pas besoin de ça. Hein, il n'a pas besoin de ça pour qu'on l'aime beaucoup. Merci à chacun de vous. Claire, vous avez un peu le même parcours que moi, parce que vous aussi, vous êtes avocate et vous aussi, vous faites un grand saut dans l'inconnu quand même.
J'ai mal tourné.
En changeant d'orientation, voilà. Nous sommes deux. Alors, évidemment, la béatification des 19 bienheureux à Oran reste mon actualité profonde intérieure et pas seulement à moi. Ça a été un événement extrêmement important. Comme tous les événements importants, on les vit très très intensément. Le lendemain, je me suis dit, je ne pourrais plus jamais vivre de la même façon. Quand on vit quelque chose d'important, on se dit, c'est fini, quoi. Il y a un avant et un après. Et puis après, la vie reprend son cours. Il faut garder, j'espère garder la cicatrice de cette béatification, de l'effort qu'elle nous a demandé, puis de ce qui en a été vécu. J'espère en garder la trace. Et j'espère que nous serons ne pas être le seul à en garder la trace. C'était un événement important parce qu'il était très improbable. Oui, c'est la béatification de 19, on y reviendra, qui ont perdu la vie pendant les années entre 1994 et 1996. C'est 19 tous ensemble, parce que c'était pas simplement ces personnes-là dont on voulait mettre en lumière le témoignage, mais c'était la vie d'une église au milieu d'un peuple musulman traversant une épreuve et la traversant ensemble. Voilà. Et c'était ce témoignage-là d'une vie ensemble jusqu'au cœur de l'épreuve, jusqu'au don de la vie, qui a été honoré, qui a été donné comme un modèle de vie, d'abord pour les chrétiens, mais évidemment débordant l'univers chrétien. Le caractère inédit, c'était que cette béatification, elle a eu lieu très rapidement après ces événements-là, 20 ans après, c'est très peu. C'est-à-dire que c'est encore des événements qui sont absolument dans le présent, enfin qui ont marqué tellement de familles et tellement de familles algériennes et ce pays. Donc on célébrait pas un passé qu'on aurait tiré de l'oubli. On est encore d'une certaine manière dans un présent. C'était inédit parce qu'il y avait des grands risques d'incompréhension. Le grand risque aurait été que on imagine une église qui glorifie ses martyrs. Il y en a eu 19, il a été évoqué par Étienne Grieux, les 150 ou 200 000 morts, la centaine au moins de journalistes, d'imams, de pères et mères de famille, d'enfants. Ça aurait été terrible si c'est ça qui était apparu, et c'est pas ça qui est apparu. Et c'est un événement inédit parce que il était vécu en Algérie, au lieu même, dans le pays même, au milieu du peuple, où ces personnes ont vécu et ont jusqu'au don de leur vie. Nous y tenions absolument. Il n'était pas sûr que ce soit possible. Il n'était pas sûr que ce soit bon. Il n'était pas sûr que ce soit possible. Et entre nous, c'est une question qui était fortement disputée. Et alors pour nous, évêques, il nous semblait impensable que ce témoignage de fidélité et de vie et de mort dans un pays au milieu d'un peuple soit célébré, soit mis en lumière en dehors de ce pays et sans ce peuple. Mais voilà, c'était un pari. C'était un pari, bien sûr, celui de l'Église, mais celui surtout des autorités du pays. Est-ce que ce signe-là allait pouvoir être recevable, allait pouvoir être reçu? Et la merveille, alors on le voit peut-être sur quelques-unes des photos, mais ce qui a été extraordinaire, c'est que ce signe de fraternité, il a tout d'un coup, on a senti au fil de la préparation qu'il allait se produire, que du bon allait sortir, et c'est ça qui est sorti. Alors ce que je garde dans le cœur, et ce dont j'aimerais témoigner, et c'est pour ça que je suis là ce soir, c'était ce bonheur visible d'être et cette simplicité d'être simplement de se reconnaître comme frère et sœur malgré une différence religieuse, malgré une différence culturelle, malgré des blessures historiques. C'est à la fois presque impossible et puis extraordinairement évident en même temps. Voilà. Ce moment-là, il s'est donné à voir que des personnes avec qui nous vivons, que je connais, des officiels, des gens simples aussi, le ciel était ouvert, l'évidence était là qu'il n'y a aucun obstacle véritable à se reconnaître frère et sœur et puis en déborder de bonheur. Voilà, c'est ça qu'on a vécu. Et c'est ça dont j'ai envie de témoigner, c'est ce que nous essayons de faire au quotidien. De temps en temps, ça se donne à voir. Et on en profite.
Se reconnaître frère et sœur, mais nous aimerions beaucoup vous interroger de manière un peu plus précise sur le dialogue interreligieux. On va vous proposer d'écouter le père Jean-Pierre, qui est trappiste, le dernier survivant des moines de Tibérine. Et puis, nous pourrons échanger ensuite.
À Tibérine, au cœur des montagnes de l'Atlas, les moines cisterciens trappistes vivent en harmonie avec la population du village qui borde le monastère. Ils y sont présents depuis 1938, chercheurs de Dieu et hommes de prière au milieu des croyants au Dieu unique. Christian de Chergé, arrivé au monastère en 1971 et prieur depuis 1984, a donné une impulsion décisive à la relation intellectuelle et spirituelle avec les musulmans, avec notamment la fondation d'un groupe, le Ribat es-Salam, le lien de la paix, avec d'autres religieux chrétiens. Ils seront vite rejoints par les membres d'une confrérie soufie, courant spirituel dans l'islam, venant de la ville proche de Médéa. Les rencontres ont lieu au monastère de Tibérine. Deux autres moines, Christophe et Michel, vont rejoindre le Ribat, dont faisaient également partie frère Henri Vergès, sœur Odette Prévost et le père Christian Chessel. Un chemin de prière et de partage inédit s'ouvre peu à peu avec les soufis.
Ils ont dit assez vite, nous allons parler ensemble, on fera des échanges, mais on évitera de parler de théologie. Parce que la théologie, j'emploie leur terme, ça divise. Mais on parlera du chemin par lequel nous allons vers Dieu, vous et nous. C'est donc la spiritualité. Hein. Et ensuite, une deuxième chose qu'ils nous ont demandé assez vite, on priera ensemble, mais pas nous de notre prière d'un côté et vous de la vôtre de votre côté. Ça sera une prière ensemble. Mais vous savez, on ne peut pas prier ensemble en gardant nos propres prières chacun. Une prière, on ne peut pas partager de vivre avec eux leurs propres prières. sauf certaines choses. Parce qu'il y a de la théologie dans les prières. On priera en silence. Alors moi, je me suis dit ça, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment monastique.
Et je crois que l'avenir de notre Église, c'est l'avenir de cette rencontre entre spirituel et spirituel. Il nous faut être une Église spirituelle, vivant du souffle de l'Esprit, dans une vraie intériorité et à la rencontre des spirituels. Et d'ailleurs, c'est ça le dialogue interreligieux, c'est un dialogue de la vie, un dialogue d'humanité, ce que vivaient nos bienheureux, et un dialogue de la rencontre qui va jusqu'à cette rencontre spirituelle où on est en action de grâce, en émerveillement devant le mystère de l'autre.
Le 25 mars 1996, les membres chrétiens du Ribat se retrouvent à nouveau au monastère de Tibirine pour 3 jours de rencontre. C'est dans la nuit du 26 au 27 mars que 7 moines, Christian, Christophe, Luc, Bruno, Michel, Paul et Célestin sont enlevés, seuls les pères Amédée et Jean-Pierre étant épargnés. Leur mort est annoncée officiellement le 23 mai. À Tibirine, au cœur des montagnes de l'Atlas, les moines cisterciens trappistes vivent en harmonie avec la population du village.
Merci. Alors, tout d'abord, on s'est demandé s'il fallait en finir avec la théologie. Non.
Vous êtes en vacances.
Plus sérieusement, on était très marqués par ces gestes d'amitié, comme vous disiez, qu'on voyait de loin, mais qui étaient présents. On voyait la sœur de Monsieur Clavery avec la maman du chauffeur, Mohamed. Les amitiés, les débuts d'amitié avec les familles qui sont allées et les voisins du monastère. Et puis vous dites, vous avez l'habitude de dire que l'amitié est le ciment de l'Église en Algérie, qu'elle est le moyen pour entrer dans cette aventure avec l'autre. Et on voulait vous demander en quoi cette amitié, qui peut apparaître au premier abord si fragile, a ce pouvoir en fait de se tenir dans ces lieux des fractures. Qu'est-ce qu'elle opère? Et peut-être si vous avez une expérience d'amitié, comme vous dites, brûlée, qui vous pouvez nous partager.
Cette question du dialogue, alors je reprends votre question, je rebondis aussi sur le commentaire et sur cette théologie qui serait l'ennemi du dialogue, qu'il faudrait laisser de côté pour pouvoir parler. Il a cette remarque un peu provocante, au moins permet de préciser un certain nombre de choses. On a entendu aussi l'archevêque Paul Desfarges dire le dialogue interreligieux, c'est d'abord un dialogue spirituel, de spirituel à spirituel. C'est vrai qu'on parle du dialogue interreligieux, on met un peu tout dedans, sans trop savoir ce que l'on dit. Et puis au fond, on a l'impression qu'il va servir enfin à pouvoir vivre ensemble, à pouvoir se comprendre, à pouvoir on risque de l'instrumentaliser. Alors je pense que il faut distinguer le dialogue, que ce soit un dialogue spirituel, que ce soit un dialogue de vie, que ce soit un dialogue au service d'une œuvre très concrète dans la société, le dialogue entre des personnes de religions différentes. Ça, c'est ce que nous faisons au quotidien. Alors, selon le père Jean-Pierre, frère Jean-Pierre a parlé du Ribat, et puis aussi l'archevêque Paul. Donc ça, c'est un dialogue entre spirituels, très bien, de religions différentes. Mais c'est un dialogue entre spirituels. On peut avoir un dialogue vraiment, et c'est l'essentiel de nos vies dans l'Église. On est au service de Hamilton a parlé de bibliothèques, des choses comme ça. On fait des choses ensemble. On est de religions différentes, oui, mais on peut faire des choses ensemble. Et le dialogue interreligieux, c'est un dialogue théologique. C'est de la théologie. Il a raison. Et donc, il y a effectivement bien un dialogue interreligieux. C'est entre théologiens. Et ça, c'est un dialogue particulier. Ça, c'est une partie du dialogue entre personnes qui sont simplement des personnes, de religions différentes ou pas. Et ce dialogue, il a une forme de gratuité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le dialogue interreligieux, le dialogue théologique, le dialogue spirituel, le dialogue, pour essayer de régler un problème. Pour essayer de régler un problème de vie ensemble, de compréhension ensemble. Et le dialogue interreligieux ne sert à rien. Le dialogue interreligieux, il est par essence gratuit. Alors, et il a des présupposés. Le présupposé, c'est que, et Pierre Clavry le disait remarquablement, Pierre Clavry disait nul ne possède la vérité, nul ne possède Dieu, j'ai besoin de la vérité des autres. Le dialogue interreligieux, mais tout dialogue, le dialogue entre toutes personnes, spécialement entre personnes de religions différentes, présuppose que l'autre avec qui je rentre en dialogue a une part de vérité qui m'échappe, que je n'ai pas. Si le dialogue c'est apporter ma vérité, c'est pas du dialogue. Donc c'est essentiel. Alors c'est absolument vrai dans toute forme de dialogue et dans toute forme de relation avec une altérité. Oui, l'autre a quelque chose, a un regard, un angle de vue que je n'ai pas, que je ne peux pas avoir. Alors dans le dialogue interreligieux, qui est un dialogue théologique, ça va un peu plus loin parce que je dois croire que cette part de vérité, non seulement je ne l'ai pas, mais en fait, je n'y aurai jamais accès. Et ça, c'est une condition, là, c'est une conviction absolument profonde. Quand on est dans le dialogue interreligieux, c'est-à-dire qu'on est, que la religion est vraiment, quoi qu'on fasse, l'objet qui est posé entre nous, enfin voilà, le sujet, d'une certaine manière, nous ne pouvons rentrer, nous pouvons connaître la religion de l'autre, nous pouvons l'étudier des années et des années. Il y a un mystère de la différence religieuse et qu'il vaut mieux poser tout de suite. Il y a un inconnaissable de la religion de l'autre. Je ne rentrerai jamais dans le mystère de l'islam, voilà, dans le mystère qui est porté et je n'ai jamais rencontré encore un jour une personne musulmane, enfin ça arrive, si ça arrive, j'en ai rencontré, si, voilà. Mais alors après c'est des personnes tellement exceptionnelles que voilà, dont je sente que de l'intérieur, elle ait pu comprendre ce mystère. Et je crois que pour moi, il n'y a pas de dialogue interreligieux possible sans avoir posé d'abord ce mystère de la différence religieuse qui nous dépasse l'un et l'autre et sur lequel personne ne peut avoir la main. Pourquoi y a-t-il pourquoi est-ce que une religion va faire vivre quelqu'un que j'aime, que je respecte, et ne me fera pas vivre moi, et je le verrai agir justement de façon juste et belle en raison de sa foi. Et alors, le dialogue interreligieux me permet de sentir que cette part de vérité de l'autre qui m'échappe, je ne peux la recevoir qu'à travers la confiance que je place dans la personne qui est en face de moi. Et c'est là où la confiance, qui est encore plus que le respect, c'est-à-dire, je ne peux avoir accès à la part de vérité, notamment, pour ce qui concerne l'islam, de l'islam, qu'à travers la manière dont vivent des croyants musulmans dignes de foi. C'est essentiel, ça. Et donc, dans le dialogue interreligieux, la tentation, ça pourrait être de dire on va se comprendre et après on va se respecter. Ben non. Non, on commence par profondément se respecter, par profondément, pour se respecter, croire
qu'il y a bien cette part de vérité en l'autre qui m'échappe et sur laquelle je ne mettrai jamais la main dessus, mais dont je vois qu'elle fait vivre un autre digne de foi. Et alors après, je vais pouvoir m'enrichir de cette différence, mais dans une forme de gratuité. Alors vous parlez de l'amitié, eh ben elle est placée à ce cœur-là. C'est-à-dire que je pense que l'amitié entre deux personnes, elle est justement fondée sur cette confiance réciproque qui permet de percevoir un mystère plus grand que la somme des deux fois. Voilà. Alors cette incapacité de mettre la main sur la part de vérité de l'autre, d'aller le rejoindre jusqu'au bout de sa foi, on la surmonte et on la sent dans l'amitié. Je suis sûr que l'islam et le christianisme, à vue humaine, mais même un peu plus, ne se rejoindront jamais en une seule entité. Voilà. Je suis sûr que jamais le christianisme n'aura raison de l'islam, et que je suis sûr que l'islam n'aura jamais raison du christianisme, parce qu'il y a cette altérité fondamentale. Et cette altérité fondamentale, on peut se dire c'est pas une question d'argumentation. Elle est au-delà de l'argumentation. C'est pas parce que on n'est pas d'assez bons chrétiens et qu'on n'arrive pas suffisamment à apporter notre foi aux musulmans au point qu'ils deviennent chrétiens. Et c'est pas parce que des musulmans sont pas assez bons musulmans, on l'entend tout le temps ça, que forcément ils n'arrivent pas à faire comprendre la vérité de l'islam au point que les chrétiens deviennent musulmans. Voilà. Quand tout d'un coup, dans l'amitié, on rencontre un vrai spirituel, un croyant, on n'a plus envie. L'expérience que je peux faire, je peux la faire par exemple, je peux mentionner le Shir Ali Bentounes quand on est ensemble, qui est le Shir d'une confrérie à la Ouïa, quand on est ensemble. Mais l'idée de se dire que je peux même pas penser, je peux même pas souhaiter qu'il soit chrétien, voilà, c'est un peu provocant de le dire, mais simplement ça ne vient pas à notre conscience, parce que au fond la communion est tellement forte que la différence religieuse à un moment dans l'amitié ne devient plus un obstacle. Alors c'est pas qu'il y a pas, alors après on peut faire, la théologie elle est essentielle, mais c'est vrai que à ces moments-là, c'est pas le moment de faire de la théologie. Je pense que la théologie dans le dialogue interreligieux est essentielle, mais elle est gratuite une fois que tout le reste est posé. Et évidemment, ce mystère de l'amitié, c'est se reconnaître en profonde relation par-delà nos différences. Et tout d'un coup, ces différences, elles deviennent, elles restent, elles demeurent, mais une place qui fait qu'elles ne sont plus du tout un obstacle. Et ça, c'est notre quotidien. Alors, c'est vrai au plus haut. Dans cette communion spirituelle, mais c'est vrai aussi au plus simple dans la vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, et c'est ce qui s'est passé pendant les béatifications, tout d'un coup, cet obstacle qui est posé de la différence religieuse, il suffit simplement de ce respect, de cette confiance en l'autre, pour que tout d'un coup, cette différence religieuse ne soit plus un mur, mais soit au contraire un enrichissement. Voilà. Si nous pouvions nous faire confiance, mais pour nous faire confiance, il faut infiniment nous respecter. Et pour nous faire confiance et nous respecter, il faut infiniment croire en cette part de vérité qu'a l'autre qui m'échappe et sur laquelle je ne mettrai jamais la main.
Merci pour ce témoignage. Nous avons beaucoup à apprendre de la petite église d'Algérie qui est, on le voit, grande de beaucoup de choses.
Oui, alors ce qu'on se demandait, voilà, en vous entendant, on entend parler de communion, et puis je sens que votre objectif n'est pas la conversion, Alors comment est-ce que vous qualifieriez le terme mission, voilà, la mission de l'Église en Algérie, comment est-ce que vous la définiriez? Et puis peut-être quels fruits vous constatez ou vous avez pu constater?
Oui, c'est une question évidemment une question importante. Effectivement, l'Église catholique en Algérie n'est pas prosélyte, voilà, au sens où lorsque je suis environné d'Algériens musulmans, il ne vient pas à ma conscience de me dire de voir en tel ou tel un chrétien qui s'ignore. Voilà. Tout simplement parce que l'Église est dans un pays où dont les habitants ont une tradition, une religion, et je crois qu'elle est et je vois dans cette tradition, dans cette religion, des hommes et des femmes, pas toujours dignes de foi. Voilà, c'est toujours la même question. Et donc, si vous voulez, pour moi, pour nous, dans l'Évangile, vous avez plusieurs lignes missionnaires. Il y a la ligne missionnaire à laquelle tout le monde pense, évidemment, spontanément, aller dans le monde entier, parmi toutes les nations, et faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans l'Évangile. C'est dans l'Évangile, et c'est une ligne missionnaire qui est importante. Dans les pays, dans les endroits, ici en France, dans nos familles, où effectivement l'annonce explicite, voilà, de ce Christ qui nous fait vivre, qui nous anime, qui m'anime au plus profond, c'est pas la question, elle a sa place. Voilà. Il y a d'autres dans l'Évangile, d'autres façons d'annoncer l'Évangile, c'est-à-dire de construire, d'être témoin du royaume et de construire déjà ici-bas le royaume. Il y a Matthieu 25, ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. Alors là, déjà, dans cette façon-là d'annoncer l'Évangile, d'annoncer le royaume, on peut être plusieurs. Hein, on peut être de religions différentes, on peut être sans religion aussi. Voilà. Et là, il y a quelque chose à construire qui dépasse de beaucoup l'horizon strictement chrétien. Et puis dans l'Évangile, il y a aussi quand la mère de Jésus vient et qu'on lui dit ta mère et tes frères sont là et veulent te voir. Qui est ma mère, qui sont mes frères, sont ceux qui font la volonté de mon père. Voilà, ce sont ceux-là qui sont ma mère, qui sont mes frères. Je suis témoin là où je vis, de tant et tant et tant de personnes de religion musulmane qui agissent de façon telle que je considère que l'évidence est là, qu'ils font la volonté de notre Père qui est aux cieux, voilà, qui font ce bien, qui font ce bon, qui sont donnés. Donc ça aussi, pour moi, il fait partie de ma façon de vivre et d'annoncer l'Évangile que de reconnaître ça. Évidemment que le Christ, pour moi, qu'il est ma vie. Qu'il est pour moi venu sauver tous les hommes, sinon il n'est pas le Christ, tous les hommes, quelle que soit leur religion, leur absence de religion, et voilà. Mais je ne sais pas comment, ça lui appartient. Voilà. Moi, ce qui nous appartient, et là où il nous a envoyés, et de marcher à sa suite, et de construire, et d'être témoin du royaume en le faisant exister dès maintenant, ici-bas. Alors, il y a une pluralité de circonstances dans le milieu dans lequel je suis, là où je vis. Ce qui me semble le plus essentiel, c'est de construire le royaume ensemble dans nos différences. Voilà. D'être témoin de ce royaume, témoin de cette espérance, et qui fait qu'ensemble on construit quelque chose. Je vais vous faire cette béatification. me fait vous parler ce soir de façon plus directe que je ne l'ai jamais fait. Parce que maintenant, je ne peux plus le taire, ça. Vous voyez, c'était énorme d'organiser cette célébration. On était, comme vous dites, une toute petite église, une toute petite équipe. On avait 2 mois et demi. On était devant une montagne. On a été énormément aidés. Ouais, je considère qu'il y a eu miracle sur miracle sur miracle. On a pu... Mais enfin, il n'empêche que c'était impossible pour moi et pour nous de se représenter l'événement parce que ça n'avait jamais eu lieu nulle part. Physiquement, parce qu'on n'avait jamais fait un rassemblement sur cette esplanade de 1300 personnes, parce qu'on n'avait jamais fait venir 600 personnes de l'étranger, parce qu'on les avait jamais logées, parce qu'on les avait jamais nourries, parce qu'on savait pas comment on savait pas comment les déplacer, enfin bon. Et donc, j'étais absolument dans l'incapacité, c'était physique, de penser le jour d'après. Je pouvais pas penser le 9 décembre. Parce que physiquement, pendant toute cette préparation, j'étais tendu sur ces jours que je ne pouvais pas imaginer, et l'après était. Sauf que l'après, on avait inscrit dans le programme messe d'action de grâce. Normal. Le lendemain, en fait, le ministre des Affaires religieuses avait voulu que les membres des familles puissent aller se recueillir sur les tombes des différents bienheureux, donc à Tibérine, à Tizi Ouzou et à Alger. Et puis il restait des personnes qui allaient partir le dimanche. Donc le dimanche, forcément, il y avait une messe. Et puis donc forcément, c'était une messe d'action de grâce. Le matin, on s'occupe de faire partir tous les cars qui partaient dans les différents endroits. Ça prend beaucoup de retard et tout ça. Et puis l'heure de la messe arrivait. Je suis entre l'hôtel et la cathédrale et je réalise qu'il y a bien une messe, que je vais devoir présider cette messe, que je vais devoir prêcher, qu'il y aura une 15aine d'évêques, qu'il y aura une 50aine de prêtres et qu'il y aura 300 personnes. Et que j'ai même pas lu l'évangile. Et qu'il y a personne pour chanter parce que les étudiants avaient été retournés le dimanche, c'est le premier jour de la semaine et ils avaient beaucoup travaillé, ils étaient repartis. Alors bien sûr, on peut parler d'abondance du cœur, mais et tout d'un coup, je lis dans la voiture pendant qu'on m'y amenait, je lis l'évangile et c'était le deuxième dimanche du temps de l'Avent, préparer les chemins du Seigneur. Et je me suis dit, mais comme une évidence qui ne me quittera plus jamais, les chemins du Seigneur, je ne sais pas ce qu'ils sont. Voilà. Il appartient au Seigneur de savoir ses chemins. Et quand qu'on soit chrétien, musulman ou autre, et qu'on sait tellement les chemins du Seigneur, on est immédiatement dans la violence et c'est dangereux. Voilà. Les chemins du Seigneur, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons à les préparer. Voilà. Ça, oui, nous avons à les préparer. Et m'est apparu comme une évidence, et je n'ai plus prêché que là-dessus, que la veille, le 8 décembre, dans cette célébration, chrétiens et musulmans, nous avions préparé les chemins du Seigneur. Et l'évidence était que le Christ nous, on a cette chance extraordinaire le Christ nous envoie à sortir de nous-mêmes, et à sortir de nos périmètres, j'ai compris, j'ai touché du doigt, j'ai fait l'expérience que le royaume se construit avec les autres, avec tous les autres, avec toute l'humanité, que le Christ s'est incarné pour se faire tous les hommes. Voilà. On ne me l'enlèvera plus jamais. Et tant pis, je le dirai comme ça, parce que je crois que si vous voulez, dans la suite de votre question et pour y répondre complètement, il y a deux lignes. Il y a ceux qui peuvent espérer que enfin le royaume des cieux sera sur terre quand tout le monde enfin croira au Christ, voilà. Et que là enfin ça y est, on y sera. Voilà. Et puis il y a une autre possibilité qui est de dire le royaume des cieux sera sur terre quand tous les hommes et toutes les femmes se reconnaîtront frères se respecteront en tant que tels et travailleront main dans la main. Les deux sont peut-être à vue humaine aussi inatteignables, mais en tout cas, moi, j'ai fait mon choix. Voilà. J'ai fait clairement mon choix. Et je le fais au nom du Christ, à la suite du Christ. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas du Christ, que je ne dis pas ce qui me fait vivre sans cesse. Et je le fais beaucoup plus en Algérie. On le fait beaucoup plus en Algérie parce que sans cesse qu'en France. Parce qu'en France, on est dans une indifférence religieuse. En Algérie, au moins, il y a confrontation, il y a question, il y a interrogation. Et de ça, on parle de Dieu. On parle de Dieu. Voilà. Mais on parle de Dieu, non pas pour que l'autre, absolument, pour l'amener dans son camp, pour l'amener dans sa vérité. C'est le fond de ma foi.
Beaucoup. Si je comprends bien, vous confirmez le choix qui avait été fait par Mgr Clavry, justement, de rester en Algérie et d'être présence et de continuer à construire le royaume de Dieu.
Une transition ?
Alors, on a une vidéo.
Exactement.
Vous pourrez réagir ensuite.
Ce que je voudrais vous raconter ici, c'est ce que le père Clavry m'a donné comme témoignage de foi. Il y avait déjà plusieurs morts parmi les chrétiens, parmi les prêtres et les religieuses et les laïcs. Et les communautés religieuses qui avaient des membres présents en Algérie commençaient à s'inquiéter et ne comprenaient pas pourquoi ils avaient l'impression que les évêques les gardaient en Algérie. Et ils ont demandé aux évêques de venir s'expliquer devant les responsables des communautés religieuses masculines et féminines qui avaient des membres en Algérie. Alors ils ont été convoqués à Rome et comme je venais avec mon confrère, on venait d'être attaqué dans notre maison où on a dû se sauver par les toits, eh bien mes responsables m'ont demandé de partir aussi quelque temps et je suis parti à Rome avec les évêques dans le même avion. Et on est arrivé dans la maison généraliste des Pères Blancs. Et là, il y avait à peu près une cinquantaine de responsables de communautés religieuses masculines et féminines qui étaient là et qui attendaient les évêques. Les questions fusaient, des questions très dures. L'ambiance était électrique parce que les responsables ne semblaient pas comprendre pourquoi nous étions encore présents là-bas alors que la mort nous menaçait. Le supérieur des Pères Blancs qui accueillait ce monde-là était...
Où
il y avait toutes les congrégations dans une grande salle. Dehors, il pleuvait, c'était triste. Et l'ambiance était vraiment morose. Alors le supérieur des Pères Blancs s'est levé et il a, dans un ton solennel, il a demandé aux évêques d'exprimer leur credo. Les évêques se sont concertés et ils ont désigné presque automatiquement le plus jeune d'entre eux qui était le père Clavry. Et voici ce qu'il a dit. Je vous le lis parce que je l'avais recopié presque texto, tellement ça me touchait. Il a dit ceci. L'Église n'est pas une multinationale qui s'implante quelque part et qui retire son personnel quand cela ne va plus. L'Église est le lieu d'une alliance qui a été passée entre le Dieu de Jésus-Christ et une humanité particulière. Les chrétiens qui sont là sont présents pour un peuple. Quoi qu'ils fassent, ils sont là pour cette alliance d'amour avec cette humanité particulière. En entrant dans cette alliance, chaque personne sait qu'elle devra y rester fidèle pour le meilleur et pour le pire. Et quand on nous dit que l'Algérie ne veut pas de nous, ce n'est pas vrai. Il y a certes des Algériens qui ne voulaient pas, mais tous les autres, les 4000 qui pleuraient à Tizi Ouzou, les 4 pères blancs qui ont été tués, et puis tous ceux qui se sont réunis à l'aéroport d'Oran pour le départ de leurs religieuses, Et tous les boiteux, les bossus, les aveugles qui sont venus voir les Pères Blancs à Gardaïa après qu'ils aient été attaqués. Oui, Jésus s'est placé sur des lieux de fracture, là où c'était cassé, là où il y avait une tension, et il en est mort. Et si nous, chrétiens, ne sommes pas présents sur ces lieux de fracture, eh bien, on n'est plus chrétiens. L'Algérie aujourd'hui est brisée en deux, disait donc l'évêque Monseigneur Claverie. Et nous, nous allons partir avec nos quelques religieux qui ont été tués. Non, nous allons rester avec ce peuple. On n'a peut-être plus rien à donner, mais on a encore nos vies. Après des dizaines de milliers de pères de famille, de jeunes, des garçons, des filles algériens qui sont morts, nous ne pouvons pas, nous, partir de notre côté. Alors le supérieur des Pères Blancs s'est levé. Il a fait une sorte de révérence qui voulait dire « Cette fois, je comprends et je sympathise. » Et dans la salle, qui était restée muette pendant tout ce credo du Père Claverie, on a senti un souffle d'amitié et de solidarité fraternelle qui a gagné tous les cœurs. L'ambiance s'est détendue, on comprenait, on était d'accord et on applaudissait. Et moi j'étais fier de mes évêques. Ce que je voudrais vous raconter ici, c'est ce que le Père Claverie m'a donné.
Je viens d'entendre évidemment ce témoignage, mais... Ce qui est très étonnant, c'est que, en beaucoup moins glorieux, la scène presque identique s'est reproduite le 1er septembre dernier à Rome aussi. Parce qu'il y a eu des grands débats pour savoir si, comme je vous l'ai dit au début, si où allait être organisée la béatification. Et entre l'Algérie, Oran, et puis Rome. Et nous, évêques, comme je vous l'ai dit, nous souhaitions l'Algérie. Et en fait, nous avions décidé un peu seuls. Et les familles religieuses et les familles de sang, comme d'ailleurs d'autres, peut-être aussi sans doute le Saint-Siège, souhaitaient que ça soit organisé à Rome. Voilà. Pour des raisons de facilité, notamment pour les familles, parce que évidemment à Rome tout le monde pouvait venir, alors qu'en Algérie on pouvait pas faire un, voilà, c'était déjà très important, on pouvait pas comme nombre, comme assemblée, on pouvait pas faire quelque chose de disproportionné, de toute façon on n'avait pas, ou alors c'était plus dans des locaux d'église, et donc forcément c'était limité. Pour le dire. Pour que ce soit en Algérie, il fallait que c'était à peu près 10 personnes par membre des familles. Et il y a des familles qui avaient l'un des pères blancs, ils étaient 15 frères et sœurs, 800 descendants. Donc vous voyez le sacrifice qu'il faut faire. Et quand on a un grand-oncle, un oncle, voilà, une tante qui devient bien heureux, on a envie d'y être. Et finalement, il y a une espèce de fronde, un petit peu exactement comme ça s'est passé à ce moment-là, comme c'est décrit par Raphaël Déon. Et on nous a dit, attention, vous êtes coupés des congrégations et ça gronde. Et nous sommes allés, nous les évêques d'Algérie, à Rome, rencontrer les congrégations. Un peu dans un même esprit et l'atmosphère était lourde. Et les premiers ont parlé en disant que qu'ils n'avaient pas été écoutés et que quand même c'était, enfin, il n'y aurait pas de visa, que c'était pas possible, que c'était. Et puis c'est le Père Blanc. C'est le supérieur général des Pères Blancs, comme dans la vidéo, qui tout d'un coup a dit, mais finalement nos frères et nos sœurs, nous avions envie qu'ils quittent l'Algérie, parce que c'était dangereux. Et puis finalement nous avons compris qu'ils devaient rester, que ça avait du sens de rester, nous les avons laissés partir. Alors dit-il, il nous faut aujourd'hui à nouveau les laisser partir. Et c'est le super des Pères Blancs qui a dit ça. Et ça a été repris après par le super général des Trappistes. Et exactement,
dans un contexte complètement différent, l'assemblée s'est retournée. Et enfin, ensemble, on a pu justement vivre et organiser. Et il y a pu y avoir effectivement ces sacrifices de la part des congrégations religieuses et des familles pour que ça soit possible en Algérie. Et ce qui est très beau, c'est que à la fin, quand on a vécu ce moment-là ensemble, pour tout le monde, il était évident que ce rester d'il y a 20 ans qui était la raison d'être de ce témoignage, il était encore valable aujourd'hui. Voilà, c'était ici et c'était ensemble. On se restait, il y a cet ensemble. Alors je suis très très très, bien sûr, ça a beaucoup de sens. Se rester, c'est tout le témoignage de ces bienheureux dans leur simplicité. Voilà, rester simplement en lien de fraternité, mais peut-être une chose qu'on perçoit pas suffisamment dans ce rester, c'est que ça allait de soi pour eux, ça allait de soi. Simplement parce qu'ils ont continué à vivre la vie qui était la leur, tout simplement, et c'était des gens simples. Il y avait parmi eux, bien sûr, des géants de la foi, comme Christian de Chergé, comme Pierre Claverie, mais il y avait aussi des sœurs, des frères très, très, très simples qui avaient passé leur vie dans un ouvroir à faire de la broderie. Et voilà, elles ont simplement continué leur vie comme elles le continuent encore aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis la France, depuis le regard chrétien, on pourrait les voir un peu comme des espèces de héros qui tiennent là au nom de leur foi et qui veulent rester fidèles à leur engagement et donc qui restent là prêts à l'immolation, prêts au sacrifice. C'est pas ça qui s'est passé. S'ils sont restés, s'ils se sont considérés comme des frères qui ne pouvaient pas partir, c'est qu'ils étaient aimés aussi. Hein. C'est que ça avait du sens, c'est qu'ils étaient au milieu, pas perdus au milieu d'un peuple, ils faisaient partie, bien sûr, en étranger, tout ce que vous voulez, on restera toujours des étrangers, mais même en étranger, on peut faire partie d'un peuple. Voilà, je fais partie de ce peuple en tant qu'étranger, voilà. et c'est pas grave, et c'est naturel, et c'est comme ça. Mais ils faisaient partie de ce peuple, ils étaient aimés autant qu'ils aimaient, et ça, depuis la France. En tant que chrétien, c'est plus difficile à percevoir. Et je pense que les familles, en vivant cette célébration en Algérie, ont perçu quelque chose de ça, qu'on ne peut pas voir tant qu'on n'y est pas. Voilà. Donc, rester, c'était rester parce que voilà, ça allait de soi. Je pense à un de nos frères, enfin, qui était un des prêtres qui était ici, qui était responsable d'une bibliothèque. Voilà. Il est toujours là, il est ce qu'il est. Voilà, c'est un homme comme vous et moi, avec ses énormes qualités et aussi quelques défauts. Voilà. Et c'était ça qui est beau, c'est ça qui est beau dans ces béatifications, c'est qu'en fait, c'était des gens, voilà, simplement lui, s'il avait été tué, ben, comme Raphaël qui parlait, ben oui, Raphaël Déon a échappé à un attentat à Gardaïa, il serait bien heureux, ben voilà, là il parle des bienheureux. Et ce prêtre dont je parle a tenu une bibliothèque pendant ces 10 années. Voilà. C'était une bibliothèque du diocèse. Il était une cible facile. Voilà. Mais il n'est pas resté pour tenir sa bibliothèque, parce qu'il fallait tenir sa bibliothèque. Il est resté parce que des Oranais prenaient le risque de rentrer dans sa bibliothèque et d'étudier, parce qu'ils en avaient besoin, parce qu'il était pris dans une vie. Et simplement, c'est ça, ce signe de fraternité de la béatification, c'est qu'on est simplement ensemble et qu'il aurait été incongru de se séparer à ce moment-là.
Monseigneur, j'ai une question peut-être plus large, pas du tout théologique. En fait, je trouve une similitude entre l'Inde et l'Algérie. C'est la population croissante. Au moment de l'indépendance de l'Algérie, la population était, je pense, 10 millions. Mais maintenant, la population dépasse, après 55 ans, 40 millions. Donc, le pays est vraiment jeune. En fait, oui, j'ai lu quelque chose et là, je trouve vers 21% de jeunes d'âge de 18 à 30 sont en chômage. Donc, pourriez-vous nous dire comment l'Église peut être engagée, comment l'Église peut être présente auprès des jeunes? Surtout, je viens d'entendre, vous avez participé au synode des jeunes aussi, tous avec ça.
Au synode de la famille, pas des jeunes. Voilà. Alors, la différence fondamentale entre alors il y a effectivement des similitudes entre l'Inde et l'Algérie par cette jeunesse qui explose, qui est débordante. Il y a une énorme différence pour ce qui concerne l'Église catholique, c'est qu'en Inde l'Église catholique est indienne, en Algérie l'Église catholique est considérée comme étrangère, voilà. même s'il y a en son sein une petite minorité de chrétiens natifs du pays. Mais en tant que telle, elle est considérée comme étrangère. En tant qu'étrangère, elle se veut inscrite dans la vie de la société. Elle se veut citoyenne, au sens d'un témoignage évangélique que de participer à la construction d'une société. Mais citoyenne d'une certaine façon, c'est-à-dire que nous revendiquons le droit d'exercer nos devoirs de citoyens. Nous revendiquons le droit, en étant étrangers, de participer à la vie de la société, comme toute société. L'étranger a sa place, voilà, et il a des droits et des devoirs. En revanche, nous n'avons pas de possibilité de travailler véritablement sur des causes structurelles du pays, on a l'Église et les évêques et les membres n'ont pas la possibilité d'avoir cette parole là. Donc effectivement, c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Une des souffrances, c'est de peut-être pas pouvoir faire pas avoir la liberté de faire tout le bien qu'on voudrait faire. Ça, c'est un premier élément de réponse, c'est-à-dire que l'Église en tant que telle ne peut pas s'inscrire dans la vie politique du pays comme un acteur qui a droit de cité. C'est comme ça. La deuxième chose, c'est qu'on est quand même on est à la fois très peu de choses numériquement et à la fois donc d'une certaine manière, l'Église catholique ne pèse rien du tout en Algérie. Elle est un signe, et à la fois, finalement, elle est un signe qui est beaucoup plus visible que son poids réel. Donc symboliquement, on est important, mais voilà. En réalité, je sais très bien que les signes que nous pouvons poser, que le rayonnement que nous pouvons avoir, ne concerne qu'une toute petite part du pays. Ça, c'est clair. Oui,
l'Église est toute petite. Mais est-ce qu'il y a possibilité de collaborer avec le gouvernement et des ONG?
Voilà, alors, c'est ce que nous faisons, nous, pour le coup. Donc, ayant posé ce fait-là, que nous n'avons pas de poids politique, étant posé le fait que nous ne... que notre sphère d'influence, mais au sens le plus, enfin, de simplement de rayonnement, que notre rayonnement est restreint. Alors après, nous posons des gestes symboliques, mais qui ne vont pas faire évoluer de façon macro, qui ne vont pas faire évoluer la situation. En revanche, qui peuvent donner envie. Alors nous le faisons de beaucoup de manières. Notre dialogue à nous, il n'est pas d'abord interreligieux au sens théologique du terme, il est d'abord inscrit dans la société civile. Nous voulons être des partenaires de la société civile, et en tant que tel, alors nous collaborons et nous encourageons
le développement, l'émergence d'une société civile. Et nous sommes en lien avec beaucoup d'associations. Alors ça pour le coup, c'est une forme de support, et c'est une forme évidemment de construction de ce royaume dont je parlais. C'est-à-dire que toute l'aspiration de personnes à construire une société, alors nous sommes là. Pas du tout sur un plan politique, mais on soutient. Ça, c'est une première chose. Après, nous avons évidemment quelques activités en direction des plus jeunes, des activités de formation, des activités de soutien scolaire, des activités comme... Alors, voilà, ça en fait partie, mais je veux dire, là aussi, on est au niveau du signe. C'est extraordinaire pour moi que des parents nous confient leurs jeunes enfants, par exemple, dans le cadre d'après-midi de centres aérés, dans le cadre d'activités. L'été, pendant 15 jours, on les a pendant toute la journée. Ça paraît rien des enfants qui jouent. J'adore les voir jouer au centre diocésain. Ils sont dans nos bibliothèques, ils sont à Mascara. Je vois Mouna qui est là-bas, qui a travaillé pendant longtemps. Ça, pour moi, c'est des signes extraordinairement forts. Imaginez en France, voilà, dans une ville de France, des Français de tradition, de souche, je sais pas comment dire, qui se disent, bah tiens, mercredi, pour notre enfant qui a 6 ou 7 ans ou 8 ans, tiens, il y a des bonnes activités à la mosquée, ça va être très très bien pour lui. Voilà. Voyez, vous entendez? Voilà. Et ben, ça dit quelque chose. Et pourquoi pas? Sauf que, il faudrait effectivement qu'il y ait une confiance absolue dans le fait que à la mosquée, on va pas essayer d'en faire des petits musulmans. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas construire le royaume avec d'autres si nous sommes avec derrière l'idée, l'envie quand même de faire des disciples. Hein. On peut pas faire les deux à la fois, voilà. Donc on a fait notre choix, et c'est celui-là. Et cette confiance-là, elle est porteuse d'évangile. Cette confiance-là, elle transforme le monde, et c'est cette confiance-là qu'on veut mériter. Donc c'est comme ça qu'effectivement, on agit aussi d'une certaine manière sur la jeunesse. Il y en a un troisième. Vous avez vu Hamilton qui m'a présenté avantageusement. Mais normal, il est séminariste face à son évêque. J'ai terminé après. On a effectivement, comme il l'a dit, voilà, des centaines d'étudiants subsahariens qui sont des boursiers de l'Algérie dans toutes les universités du pays. Finalement, ce sont eux qui sont véritablement au contact de la jeunesse. Ce sont eux, les chrétiens, ils sont là, Franck et Gaël, qui sont là au premier rang. Ce sont eux qui passent 3, 4, 5 ans, parfois 6 ans, 7 ans, dans les cités universitaires, avec et qui ont des amis algériens. Et avec eux, on travaille pour faire en sorte qu'ils soient effectivement des ferments de transformation, des fidèles témoins de la foi qui les habite. Et d'une certaine manière, au début, il y a eu un moment, ils sont arrivés, les étudiants, c'est un mouvement qui s'est développé il y a à peu près une quinzaine d'années, c'est-à-dire qu'au moment où on parle, dans les années 90, il y en avait très peu, ils sont arrivés plutôt au début des années 2000, et au début on disait mais comment, parce qu'on était un peu des spécialistes, on était une petite église de spécialistes, comme une armée de métiers, hein, excuse-moi, et donc nous, on était là pour être en contact avec les musulmans. Ah, puis tout d'un coup, y a des étudiants qui arrivent, mais il faut s'en occuper, mais on n'est pas venu pour eux, et tout ça. On a eu des grands débats comme ça. Maintenant, ils sont une partie essentielle de notre église, à un point tel que celui qui est là, Gaël, avec deux autres de ses amis, a écrit un livre sur l'église d'Algérie. Comment est-ce que les étudiants voient l'église d'Algérie? Et ce sont eux qui sont au contact, et qui sont ce ferment, eux aussi, de transformation, parce que les jeunes entre eux, rentre en osmose, et ça c'est bon aussi, c'est ce qu'on peut faire. Très peu de choses, mais c'est quelque chose quand même.
Alors avant de vous donner la parole, peut-être un dernier point, puisque maintenant il vous appartient de nous envoyer et de nous faire mieux comprendre ce qu'est pour nous du message des bienheureux.
Bon, l'équipe m'a dit que la question que j'ai préparée, c'est une question presque, comme on dit en français, pharaonique. Donc ça se coïncide avec mon identité.
On a tout.
Coïncide avec moi.
On a. Mon identité. On a toute la nuit. On a toute la nuit, hein.
Trop. Mais je pense. Que vous avez déjà partagé avec nous quelques éléments de la réponse. C'est comment le témoignage, la vie donnée de martyrs béatifiés peut nous aider aujourd'hui à mener notre propre vie de chrétien au quotidien. Je voudrais dire comment les chrétiens de l'Église universelle aujourd'hui peuvent s'approprier l'héritage de ces hommes et femmes qui ont été placés dans une situation particulière.
Alors, j'ai effectivement répondu. Je vais donc, dans les très peu de temps qui me reste, répondre par deux pistes. D'abord, vous avez parlé de ces chrétiens placés dans une situation particulière. Puisque je suis dans une université jésuite, Paul Dessizier, un jésuite que j'aimais beaucoup et qui a vécu cette période avec qui j'ai vécu à Tlemcen, disait, nous étions des hommes et des femmes ordinaires placés dans une situation extraordinaire. Voilà. Et simplement, alors, la première chose, ces béatifications nous disent que nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous le savons, mais tout d'un coup, voilà, on le sait dans la tête. Ces hommes et ces femmes, c'est pas parce qu'ils étaient, ils ont été tous pris dans leurs différences, comme je l'ai dit, des sœurs très simples et puis un évêque très exceptionnel. C'est simplement des chrétiens qui sont allés au bout de leur vocation, voilà, dans la fidélité à une vocation. Donc le premier enseignement, c'est où que nous soyons, quelle que soit notre vocation, nous sommes appelés à cette sainteté, nous sommes appelés à aller au bout de notre vie, pas forcément par le don du sang, il n'est pas prévu de donner leur sang, et c'est pas ça. C'est pas leur mort qui est témoignage, c'est leur vie. Voilà. C'est leur mort qui a permis qu'il y ait ce procès, mais c'est leur vie. Et à travers ces 19-là, c'est la vie de toute l'Église, et c'est notre vie. Voilà. Donc notre vie est une autoroute vers la sainteté. Il suffit simplement de le vivre et d'avancer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois que vous l'avez compris. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas quelle est l'actualité pour vous, mais pour moi, c'est un appel à construire ensemble, à être témoins ensemble, du royaume de Dieu. Je vois dans la salle Mina. Qui est oranaise, voilà, qui aujourd'hui se forme ici, pour travailler en éthique et pour travailler comme dans les services d'aumônerie d'hôpital. Voilà. Elle est musulmane, elle est dans une université jésuite, vraiment. Pour moi, ça, c'est un beau signe. Vous comprenez, ça, c'est un signe du royaume. Ça n'a pas de prix. Je crois que c'est bien heureux, dans leur simplicité, nous envoie à la suite du Christ, à sortir de nous-mêmes et puis à vivre cette vie à laquelle il nous a appelés, à la vivre pleinement, en cherchant à faire tout le bien, tout le bon qu'on peut, et voilà, dans la simplicité et l'humilité de nos vies. C'est ça pour moi le message des bienheureux.
Pardon, vous avez maintenant la parole. Je vous propose de prendre une première série de trois questions, si cela vous convient.
Est-ce qu'on pourrait mettre la photo des 19 peut-être ?
Quelqu'un veut bien se charger de faire circuler les mots.
Pendant qu'il y a des questions, j'ai simplement mis au tableau c'est l'affiche qui a été déployée le jour de la béatification. Et elle dit quand même beaucoup, on a travaillé sur cette affiche, c'est toujours un moment important quand on déploie le portrait, sauf que là, il fallait que ce soit un moment important, pas simplement pour les membres des familles, mais pour tout le monde, et on ne savait pas comment rendre présent le peuple algérien, et c'est bien heureux au milieu du peuple, c'est ce qu'on a voulu faire. Donc effectivement, il y a les 19 visages qui entourent, et puis il y a cette espèce d'ouverture de point de fuite avec des prénoms, des prénoms algériens, et au milieu de ces prénoms, en couleur, le nom des 18, et en couleur, en fait, le prénom d'un 19e, c'est à côté de Pierre Clavry, c'est Mohamed. C'est pas pour dire que lui aussi a donné sa vie comme les 19 l'avaient fait, comme les 18 l'avaient fait, les 19, pardon. Et voilà, cette image nous inspire beaucoup.
Je voudrais vous dire combien, en assistant à la télévision à cette béatification, j'ai ressenti une immense joie qui grandissait au fur et à mesure de cette messe. Et quand je vous ai vu tenir dans vos bras la mère de Mohamed, j'ai été extrêmement touchée et je me suis dit, voilà, une profondeur d'amitié qui est tellement sincère, et j'étais vraiment bouleversée. Et puis j'ai vu aussi les personnes politiques qui, au fur et à mesure de la célébration, avaient un sourire extraordinaire, alors que je me disais peut-être que pour eux c'est pas naturel d'être dans une telle situation. Et il y en a un, et on le voyait presque faire une prière. J'ai trouvé qu'il avait la main sur le cœur. Et j'ai trouvé que ça... la terre entière a dû le ressentir.
Oui, Père, merci pour ce témoignage qu'on a ressenti. J'ai effectivement regardé aussi la cérémonie de la béatification, ce qui pouvait paraître un défi absolu, comme vous l'avez rappelé. Ce cardinal venant à Oran, et dans l'assistance, on voyait les imams. Et moi, j'ai été très, très sensible et très ému à la présence des imams, parce que c'est pas évident pour eux de suivre une cérémonie de béatification. Ça peut paraître même totalement incongru. Et je voyais à la fin, vous êtes allé les saluer, et je voulais savoir ce que représentait pour vous ce lien avec les imams officiels, finalement, de l'Algérie, et comment ils ont pu ressentir cette cérémonie, parce que c'était aussi sans doute un enjeu et un défi majeur pour eux de venir là.
Bonsoir. Je sais que vous êtes frère dominicain.
Vous levant, peut-être qu'il y aurait moins de bruit. Mettez-vous debout et ça va marcher.
Je sais que vous êtes frère dominicain et qu'en même temps, vous avez cette mission d'être évêque d'Oran. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de comment cette mission se tricote, ou comment vous l'avez découvert? Comment cette mission d'évêque d'Oran se tricote avec votre vocation dominicaine? Qu'est-ce que vous en avez découvert? Est-ce que dans la province, c'est quelque chose qui est nouveau ou qui est déjà présent depuis longtemps? Voilà.
Merci. Alors, répondre à ces trois questions, qui n'en sont pas tout à fait, mais en tout cas, merci, madame, d'avoir été sensible à cette joie, parce que c'est exactement ça. C'est la seule image que je garderai. C'est cette espèce de joie, et qui était aussi sur les visages, y compris sur les visages, notamment des officiels que je connaissais et que je ne connaissais pas avec ce visage-là. Comme sans doute ils ne me connaissaient pas comme ils m'ont vu ce jour-là. Et je crois que vous avez raison,
Je pense que pour un certain nombre d'Algériens, c'était très important et très frappant de voir cette joie-là, parce qu'on ne triche pas avec sa joie. On peut presque tricher avec ses larmes. On ne peut pas tricher avec la joie. On ne peut pas tricher avec cette joie qui vient du cœur. Voilà. Et elle était là, elle était palpable. Ils étaient en face de moi. Et je crois que ça, c'est effectivement, pour moi, le test que quelque chose s'est passé. Il y a pu y avoir tous les calculs du ciel, de part et d'autre, et on a pu... Et à un moment, quelque chose se passe de cet ordre-là. Voilà. Et ça, je le garderai toute ma vie. Je garderai toute ma vie, ce témoignage-là. Vous avez parlé de monsieur de la difficulté, puis de ce comment ont pu vivre les officiels, les imams, comment ont-ils pu vivre ce temps-là. Ben là aussi, il fallait une sacrée dose de confiance. Il fallait une sacrée dose de confiance pour ces hommes en Algérie, pouvoir participer à une célébration religieuse chrétienne en extérieur, retransmise en direct par la télévision, donc sans filet, sans savoir ce qui allait être dit, sans savoir. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui allait être dit. Voilà. Et arrivé comme ça, et ben voilà, pour moi, c'est effectivement un signe extrêmement important. Là aussi, la vie, ça ne veut pas dire que tout est gagné, que tout est rose, que tout est... il y a quelque chose d'inédit. Voilà. J'espère que ça ne restera pas isolé. Hein, mais, et que petit à petit, la confiance appelle la confiance et qu'on avancera en Algérie, mais comme signe pour ici, pour ailleurs, pour partout. Voilà. Parce que ça n'a pas tellement d'intérêt si ça doit rester en Algérie. Quand le pape dit qu'il espère que ces béatifications seront un grand signe de fraternité dans le ciel de l'Algérie à destination du monde entier, c'est ça qu'on veut. Voilà. Dire que simplement c'est possible et qu'on peut le faire. Mais pour rien ne se fait sans la confiance. Rien ne se fait sans confiance. Et la confiance se gagne jour après jour. Dans toutes nos relations, quelles qu'elles soient, voilà, se gagne jour après jour. On ne peut rien faire sans la confiance. Et donc, aujourd'hui, être humain, être disciple du Christ, sans faire le pari de la confiance, c'est voué à l'échec, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors bien sûr, c'est un combat qui fait mal, qui prend du temps, qui veut dire que parfois, effectivement, il y a des déceptions. Mais enfin, c'est le seul chemin à suivre, le chemin de la confiance. Et le troisième...
Un évêque dominicain.
Un évêque dominicain.
Un autre.
Qui n'est pas explicite, voilà. Un dominicain qui ne prêche pas en chair et qui ne dit pas « convertissez-vous ». Voilà. Alors, j'ai aucun souci. Donc, ce qui était inédit, c'était qu'un provincial en responsabilité soit nommé évêque. Alors ça c'était jamais arrivé dans notre province. Des dominicains nommés évêques, il y en a et régulièrement. Et quand cette question-là était posée à Pierre Claverie, il répondait qu'il n'avait jamais été autant dominicain que depuis qu'il est évêque. Je signe. Voilà, je signe, parce que évidemment, être évêque, c'est être pasteur, c'est être prédicateur, c'est être inscrit dans une réalité concrète du monde. Je me sens absolument dominicain évêque, bien plus dominicain évêque que évêque dominicain. Je porte l'habit tout à l'heure, et pour vous, tout à l'heure, je porterai l'habit et puis je resterai en habit le reste de la soirée, précisément parce que j'aime cet habit, que j'y tiens et que c'est bien dans ma dans ma
dans ma vocation de fils de Saint-Dominique que je suis évêque. Et après, j'espère, sur la question du témoignage évangélique, il y a vraiment beaucoup de manières de porter le témoignage évangélique, y compris parmi les dominicains. Il y a l'enseignement, mais il y a aussi des dominicains qui étaient des prêtres au travail. Il y a des dominicains qui sont dans les aumôneries d'hôpitaux. Vous savez, quand on est au milieu d'hôpital, on a autre chose à apporter que de dire il faudrait quand même que vous deveniez chrétien ou que vous soyez plus chrétien. Enfin voilà, on a autre chose à vivre. Enfin, j'espère que l'Évangile se transmet, s'annonce dans toute l'humanité, à travers toute notre humanité. Et donc les champs d'annonce, les formes d'annonce évangélique sont infinies. J'ai dit celui qui est celui qui me touche davantage et qui est pour moi approprié dans la situation particulière d'une église en monde, au milieu de musulmans. Donc une église qui se veut, enfin j'espère que notre église, je le dis souvent, se veut discrète. Ça ne veut pas dire qu'elle se veut muette, parce qu'elle parle beaucoup. Notre église se veut discrète, non pas au sens où on dit de quelqu'un qui est trop timide et timoré, oh, il est gentil mais il est discret, hein. Ça veut dire il ne dit rien. Voilà. Non, notre église, elle se veut discrète au sens où elle se veut respectueuse, comme on dit de quelqu'un qui est respectueux de la vie de l'autre. C'est une personne discrète. Et ça, ça devient une qualité. Et je ne sais pas, moi, personnellement, je ne sais pas être témoin de l'Évangile, je ne sais pas transmettre l'Évangile en dehors de cette discrétion. Voilà. Il y a peut-être d'autres possibilités. Moi, je ne sais pas faire.
J'espère que nous avons encore le temps pour une deuxième série de questions. Alors, est-ce que dans la salle Henri de Lubac, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, oui.
Oui, c'est bon ?
On vous entend.
D'accord.
Il y a quelqu'un ?
Alors, est-ce que vous avez des questions ?
Merci. J'ai déjà une petite partie des réponses de ma question à ce que vous venez de dire tout à l'heure. J'aimerais savoir, parce que vous avez parlé d'une église muette, qui n'est pas discrète.
Non, l'inverse.
Ah, l'inverse, oui.
Discrète, qui n'est pas muette.
Une église discrète, mais qui n'est pas muette. Quels sont les cas que vous pouvez nous partager concernant la prise de position de l'église, par exemple, par rapport à la situation du pays dans lequel vous travaillez?
Dites-moi un peu, j'ai du mal à comprendre.
Peut-être on va prendre d'autres... Voilà, s'il vous plaît, pour que le maximum de personnes puissent s'exprimer.
Bonjour et
merci beaucoup pour vos propos. J'ai une question qui est très personnelle, qui remonte au fait que par ma mère, je descends de Français d'Algérie. Il y a en France deux communautés importantes, les Harkis et les Français d'Algérie, qui vivent les événements d'Algérie de manière très forte. Il y a 2 ans, j'ai vu Ce que le jour doit à la nuit dans l'Oranais, sur l'histoire des Espagnols de l'Oranais. Et il y a 3 mois, j'ai lu L'art de perdre d'Alice Zeniter, ce beau livre sur le destin des Harkis. Et je pense à ma mère, 1 an avant sa mort, qui disait qu'elle était prête à revenir en Algérie pour l'ordination d'un séminariste de Constantine. Et du coup, je me disais, cette réalité spirituelle que vous avez décrite, qui paraît loin de ce que vivent les communautés pieds-noirs et harkis en France, souvent fixées dans le passé et traumatisées par ce qui s'est passé, comment ce qui s'est passé là pourrait porter du fruit de l'ordre d'une guérison, d'une réconciliation, d'un retour possible, rencontrer les gens, pas seulement visiter les tombes, mais rencontrer les gens, par rapport à cette réalité humaine qui est très prégnante en France. Merci.
Pardonnez-moi, je voudrais prendre le temps de répondre à cette question.
D'accord. Et après, nous donnerons la parole de nouveau la salle Henri de Lubac, parce qu'il y avait une question posée en parallèle.
Oui. Mais je souhaiterais, monsieur, vraiment répondre à votre question parce qu'elle est extrêmement importante. Alors, il y avait donc des Français d'Algérie qui étaient présents à la béatification. Il y a effectivement, la France, les liens entre la France et l'Algérie sont extraordinairement nombreux de plein de manières. Aujourd'hui, on dit qu'une personne sur six a un rapport personnel avec l'Algérie d'une manière ou d'une autre. Et ce rapport des natifs, des Européens d'Algérie, me touche particulièrement. Et touche particulièrement les rapports entre la France et l'Algérie. Ils sont un point de contact, ils peuvent être un point de contact extraordinaire ou au contraire une source de séparation. Ils sont marqués, vos familles sont marquées d'une blessure extraordinaire parce que qui est simplement le fruit de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu effectivement cette colonisation qui est simplement une guerre de conquête, il faut le dire. Il y a eu un moment de la colonisation. Et puis après, il y a une vie qui se tisse pour des familles. Et puis à un moment, quand on est lancé dans une guerre de conquête, à un moment, il y a une sortie. Voilà. Et il y a une génération qui vit un écroulement. Voilà. Et qui vit et c'est pas la France contre l'Algérie, parce que dans l'écroulement, il y a bien sûr le fait d'avoir quitté un pays qu'ils aimaient, une terre qu'ils aimaient, qui les habitait. Il y a aussi eu le fait simplement d'arriver dans un pays dont ils considéraient n'étaient pas toujours les bienvenus. Pas tout simplement. Donc c'est quand du côté de l'Algérie, on imagine que c'est une espèce de victoire de la France contre l'Algérie. Enfin voilà. Globalement, ils se sont pas sentis spécialement accueillis, attendus. Et alors. Ce qui m'a toujours frappé, c'est la ressemblance entre ce qu'on appelle les pieds noirs et les Algériens. Vivant en Algérie, n'étant ni Algérien ni pieds noirs, cette ressemblance me frappe. Parce que les deux, pour des raisons différentes, sont attachés viscéralement à une terre. Les deux ont dans le sang... quelque chose de mystérieux mais qui est fait de ce terreau-là et les deux ont une blessure. C'est impressionnant parce que j'en ai fait l'expérience physique. On peut se retrouver parfois avec une personne algérienne et au fond on sent qu'il y a très souvent une blessure d'amour propre extraordinairement profonde qui est là, je peux simplement l'apercevoir, je peux pas en mettre des mots, l'impression d'avoir été méprisé, cette blessure elle est là, et cet amour de l'Algérie est là. Et pour les pieds noirs, la blessure c'est la blessure d'avoir dû partir, et l'amour de l'Algérie est là. Et alors, ce qu'on peut voir de l'extérieur, c'est que quand tout d'un coup, Algériens et pieds noirs se reconnaissent dans leur amour et leurs blessures, il se passe quelque chose et ils deviennent alors comme des frères, quoi. Voilà. Si tout d'un coup pieds noirs et Algériens se rendent responsables de leurs blessures, alors ils deviennent des ennemis et ils se haïssent. Voilà. Et ils ne sont pas responsables de la blessure les uns des autres, pas seulement, et en tout cas on peut travailler là-dessus. Mais en fait, au fond, moi je suis témoin au quotidien de fraternisation énorme. Chaque fois que des pieds noirs reviennent visiter, ils sont attendus, ils sont choyés parce qu'ils sont reconnus dans leur souffrance. Et j'en suis témoin. Et moi, parmi tous ces pieds noirs, parmi tous ces Européens d'Algérie, il y a une génération qui me marque particulièrement. C'est ceux que j'appelle les enfants du départ. C'est-à-dire ceux qui sont nés juste avant l'indépendance ou même qui sont nés en France juste après. Il me touche parce que je suis né en mars 62, donc j'ai exactement l'âge de l'Algérie indépendante. Et je les vois venir, ceux qui ont mon âge, donc on se comprend aussi parce qu'on est de la même génération. Et je vois cette fracture en eux, d'être nés, ils sont nés dans des familles où les parents avaient à assumer une telle souffrance, un tel déracinement qui n'était pas en fait, parfois pas en mesure d'accueillir véritablement la vie. Et ils ont grandi en apprenant que le paradis, c'était hier et c'était ailleurs. Voilà. Et ces blessures-là sont là. Et alors, quand ils reviennent en Algérie pour accompagner leurs parents pendant que c'est encore possible, ils n'ont pas du tout le même rapport au pays que leurs parents. Leurs parents recherchent leurs souvenirs. Eux, tout d'un coup, oui, ils sont intéressés de voir où leurs parents ont vécu. Mais tout d'un coup, et ça c'est très mystérieux, ils retrouvent une patrie, ils retrouvent une terre, ils retrouvent quelque chose, ils se sentent chez eux. Et ben moi je crois qu'il serait bon, qu'il faut tisser tous les liens entre la France et l'Algérie. Voilà. Et que ces Français d'Algérie, et leurs descendants, et leurs enfants, et leurs petits-enfants, parce que sont un lien, sont un trait extrêmement important. Et en tant qu'évêque d'Oran spécialement, je les accueille d'une façon particulière. Je serai toujours à leur service tant que leur amour de l'Algérie ne se traduira pas par une haine des Algériens. Voilà. Quand c'est le cas, désolé, je ne peux plus rien. Voilà. Je peux comprendre la souffrance, mais je ne peux plus rien. Merci de votre question parce que je crois qu'elle est très importante.
Alors, nous sommes très en retard sur le programme. Il y avait une question sur la position de l'Église sur les sujets importants à laquelle nous n'avons pas encore répondu. Et puis, nous n'aurons malheureusement pas le temps de prendre d'autres questions.
Je me permets d'intervenir. C'est Étienne Grieux. Je suis dans la salle de l'UBAC. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête maintenant. Je crois qu'on a vécu vraiment quelque chose d'extrêmement fort ce soir. Mais je vous propose qu'on prolonge ce temps-là par un temps de prière dans l'église Saint-Ignace. Une manière de remettre tout cela au Seigneur. Voilà. Parce que si on se lance encore dans d'autres choses, on va vraiment faire complètement exploser l'horaire. Voilà.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.